La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Voici un moment historique. Nous arrivons à la lettre Z de notre dictionnaire des titres et nous allons la terminer. C'est-à-dire qu'il nous restera encore à vous raconter ensuite ce qui commence par des chiffres et puis peut-être aussi un petit tour dans le supplément parce que chez les gens cultivés, il y a le dictionnaire et le supplément de dictionnaire.
On a l'impression que cette histoire-là n'a pas de fin.
Non, surtout qu'elle a commencé très exactement le 5 février 2002. Ça fait donc 13 ans
et
que
oui.
Nous parcourons le dictionnaire des titres de temps en temps. Et à cette occasion-là, naturellement, nous avons l'opportunité de passer de la musique variée et excellente. Et pour commencer, voici un morceau qui s'appelle Wolverine Blues.
On a un petit peu cherché parce que quand même, on s'est dit, il faut qu'on explique
ce
que c'est que, d'abord pour nous-mêmes, puis pour vous, ce que ça veut dire Wolverine. Alors, il y avait des gens qui disaient, oui, mais Wolf, ça vient de Wolf, le loup.
Oui, c'est le petit loup.
Eh bien, pas du tout.
Pas du tout, et vous allez voir que ça nous ramène dans nos régions, car la bête du Gévaudan n'est pas loin.
Il s'agit d'une bête particulièrement mythique, mais totalement existante. Mythique pourquoi ? Parce qu'elle est tellement méchante, tellement agressive, que les gens en ont fait une sorte de bête du Gévaudan, alors qu'elle existe.
On s'est posé la question à l'époque de savoir si la bête du Gévaudan n'était pas cet animal qu'on appelle aussi au Canada carcajou.
Eh bien, en réalité, il s'agit du glouton. Imaginez le glouton, c'est une bestiole. Pas si grande que ça, un petit ours à peu près.
Oui, 18 kilos quand même.
Oui, quand même. Mais alors, d'une agressivité, d'une méchanceté, d'une ruse absolument incroyable.
D'ailleurs, carcajou vient d'un mot de la tribu des Micmacs, nous n'inventons rien, et ça veut dire mauvais esprit. Il avait un instinct de survie tellement développé, cet animal, que vraiment il avait impressionné les Indiens qui s'y frottaient.
On avait l'impression qu'on ne pouvait pas le combattre.
Et l'État du Michigan, en Amérique, où il y avait beaucoup de gloutons, de carcajous ou de wolverines, comme vous voudrez, a été baptisé. Tu sais, chaque État américain a son surnom. Eh bien, le surnom du Michigan, c'est l'État du Wolverine. Et c'est pourquoi, dans la capitale, qui s'appelle Lansing, qui est pas loin de Chicago, un brave barbier, ami de Jelly Roll Morton, avait placé sa boutique à l'enseigne du Wolverine. Et c'est pourquoi Jelly Roll Morton a composé un morceau en l'honneur de son ami, le barbier, qu'il a naturellement appelé
Wolverine Blues.
Et là, nous confions l'exécution de ce morceau à un orchestre qu'on a connu dans le Cantal il y a quelques années et qui s'appelait les Dumoustier Stompers.
Thank you.
Le morceau suivant s'appelle en français WPA Blues.
W, ça voulait dire works, c'est-à-dire travail. P, c'était progress, progrès, hein, enfin. A, c'était administration, administration. C'était Roosevelt, le président. Hein.
Pendant la crise, d'après le krach de 29.
Il a dit on ne peut pas laisser les gens comme ça au chômage à ne rien faire, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'indemnité. Hein. Et donc, il a eu l'idée d'initier de grands travaux.
Et il a eu l'idée parallèle d'organiser le travail proposé par l'État dans une administration qui permettait de le gérer, de le centraliser et de faire les choses efficacement. Et ça s'est appelé donc la Works Progress Administration. Et la communauté noire des États-Unis a été très sensible à cet organisme parce qu'il en a beaucoup profité vu que c'était cette communauté-là qui était la plus frappée par le chômage. Et naturellement, il en est résulté quelques chants de gratitude, un électorat fidèle et fidélisé. Et cette gratitude s'exprime ici par la voix de Big Bill Brunzi dans un morceau qui s'appelle très originalement
WPA Blues.
Everybody working in this town and it's worth me night and day. Everybody working in this town, and it's worth me night and day. That's that mean house wrecking crew, yeah, that work for the WPA. The landlord come this morning, he knocked upon my door, asked me was I going to pay my rent no more. He said you'll have to move if you can't pay. Then he turned and he walked slowly away. Then I know I'll have to try to find me some place to stay. Cause they're gonna tear my house down, yeah, that crew from the WPA. So I went to the relief station, I didn't have a cent. They said, stay on while you're staying, you don't have to pay no rent. Then when I got back home, they was tacking a sign on my door. Said, this old house is condemned, and you can't live here no more. Then a notion struck me, I'd better be on my way. Cause they're gonna tear my house down, yeah, that crew from the WPA. Started out the next morning, I put a lock on my door, so I would move, but I haven't got no place to go. The real estate people, they done got sold. They don't rent to no relief clients no more. And I know then, I have to walk the streets night and day. Or they're gonna tear my house down. Yeah, that crew from the WPA. A notion struck me to stay on a day or two, but I soon found out that that wouldn't do. Early the next morning, I was laying in my bed. I heard a mighty rumbling, and bricks come tumbling on my head. I started ducking and dodging, trying to get out of the way. Cause they tearing my house down, yeah, that crew from that WPA.
Wrapping it up.
Et oui, ce n'est pas du tout une conséquence d'une recette devenue connue au McDo. Et il s'agit d'une expression qui veut dire qu'on a réussi dans son entreprise, quelle que soit l'entreprise d'ailleurs.
Et oui, ils avaient réussi quelque chose d'assez étonnant, ces gens-là, qui ont fait ce disque. Après la mort de Fletcher Anderson, ces gens-là s'étaient tous séparés. Et ça leur a tellement, tellement manqué.
Oui, parce que l'orchestre de Fletcher Anderson, qui était au départ formé de gens très jeunes, lui était leur aîné et était un type très organisé. Mais c'était une famille, vraiment une famille, et on le sent très bien. On s'en rend bien compte avec ce qui s'est passé, comme tu disais, bien longtemps après la disparition de l'orchestre.
Eh bien, ces gens-là, ils ont décidé de se retrouver et de rejouer et de refaire l'orchestre.
L'âme du complot, ça a été Rex Stewart, le trompettiste, qui a battu le rappel des anciens, le temps de quelques festivals, de demi-grossillons, dont nous extrayons ce Rappin' It Up, qui était un arrangement de l'époque où l'orchestre existait, et qu'ils ont repris en profitant naturellement des conditions de longueur offerte par le micro-sillon. Et comme vous allez voir, ils en ont profité longuement et vigoureusement. C'est un orchestre de stars, hein. On trouve des noms en veux-tu, en voilà, parce que tout le monde est passé par chez Fletcher. C'était une pépinière de jeunes gens. Et maintenant, devenus mûrs, eh bien, ils ont rendu à leur façon, finalement, hommage à leur vieux chef disparu.
Thank you.
Et ainsi quittons-nous la lettre W pour nous consacrer maintenant au Y, parce qu'il n'y a pas de morceau de jazz X. Le X est réservé à des productions qui ne sont pas dans le jazz autrement que par allusion sous-jacente, double sens et autres calembres d'années.
On s'arrête là.
Nous n'en dirons pas plus, étant donné l'heure de diffusion de cette émission. D'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de paroles n'ont pas été traduites dans ce que nous vous faisons entendre. Et nous voilà donc dans le Y, et naturellement, ça commence par...
Yacht Club Swing. Le Yacht Club, ben vous savez, c'est ce qui s'écrit en français yacht.
Yacht.
Yacht. C'est-à-dire, c'est un bateau de plaisance. Et Yacht Club, eh ben, c'est assez... quand
ah
même.
Oui, c'est
hein,
plutôt huppé. Hein. C'est composé de gens ayant les moyens de se payer un bateau de plaisance et de ne pas s'en servir.
N'est-ce pas ? Alors, on pense que c'était un groupe... de jeunes gens qui chantaient et qui s'étaient appelés Yacht Club Men ou Yacht Club...
Et le club où ils se produisaient, qui était au départ un bar clandestin, a pris le nom de ce groupe et est devenu donc le Yacht Club.
Oui, quand on dit bar clandestin, c'était au moment de la prohibition, c'est-à-dire qu'on y vendait de l'alcool, ce qui était totalement interdit.
Naturellement, et ce qui faisait l'affaire de tous les trafiquants qui gravitaient autour, et ça s'appelait un speakeasy. Et ce speakeasy a déménagé un beau jour, il est allé s'installer à Harlem. À ce moment-là, il n'y avait plus de problème de prohibition, et on buvait sec, à commencer par Fats Waller, qui cherchait justement un lieu où fixer son petit orchestre, et il a donc fait du Yacht Club sa résidence habituelle. Et nous avons même, dans nos archives, l'enregistrement de la soirée inaugurale du Yacht Club, et un jour, on va vous passer ça d'ailleurs.
Oui, un peu plus tard.
Naturellement, Fats a composé un morceau en l'honneur de cet établissement, qui est devenu son indicatif, et c'est ce que nous allons vous faire entendre. Le petit orchestre, il mérite qu'on s'y attarde deux secondes, car c'est un exemple absolument unique. Il est né au studio, il n'existait pas avant. Il était réuni pour une séance d'enregistrement. Ils sont tellement bien trouvés ensemble que c'est devenu l'orchestre régulier de Fats Waller. C'est pas beau ça ?
Ah, c'est bien.
Yacht Club Swing. Thank you.
Maintenant, vous allez entendre Yardbird Shoot. Yardbird, c'est une façon qu'avait Charlie Parker d'appeler les poulets. Les oiseaux de la basse-cour, quoi.
Oui, et alors, il faut dire que Parker passait sa vie à toute heure, à tout venant, à bouffer du poulet.
Il aimait tellement ça que finalement, les autres l'avaient surnommé mon poulet, en gros.
Yardbird lui est resté un certain temps.
Et puis, de Yardbird, c'est passé à Bird, tout court, qui était à la fois plus poétique, plus évocateur. Avec Bird, c'est-à-dire oiseau, on peut tout dire. Hein.
On peut tout dire, puis alors, quand même, quelle image de marque. C'est mieux qu'un poulet de basse-cour, quand même. Mettons-nous à la place, quand même, des amateurs. Et surtout, des promoteurs de la chose.
Et là, vous allez entendre ce Yardbird Shoot joué par un orchestre français qui s'appelle Anachronic Jazz Band.
En France, où on a hérité du jazz, finalement, on est sans cesse dans les projets. Tiens, je vais monter ci, tiens, je vais monter ça, tiens, je vais prendre le répertoire truc mu, etc. Et là, ils ont une idée absolument géniale, car Parker, Gillespie et les gens qui ont créé la musique bebop avaient pris des harmonies de morceaux très connus de jazz pour en faire des morceaux bebop. Et l'anachronique, Philippe Baudouin en tête, qui était l'arrangeur principal, a eu l'idée de faire le contraire, de reprendre les mêmes morceaux bebop et de les jouer en jazz, mais sans retourner aux standards d'origine. Ça a donné des résultats assez étonnants. Et alors là, nous allons vous livrer un morceau qui est resté légendaire dans le jazz français. C'est très curieux d'ailleurs, parce que c'est, à la limite, c'est presque ce qu'on retiendrait tout à fait à tort de l'anachronique jazz band.
Et oui, parce que là, il y a un solo de pipeau.
Il y a un solo de pipeau et une partie de clarinette remarquable. Alors le clarinettiste est Marc Richard et le pipeau est suédois. C'était un copain qui habitait Paris à l'époque et qui jouait avec les musiciens français. Et c'est lui qui tient le pipeau, il s'appelle Göran Eriksson. Et c'est un morceau qui est resté totalement historique. Et donc, n'en concluez pas quand même que l'anachronique, c'était du pipeau. Et naturellement, c'était couru, la lettre Y va nous emmener, nous promener sur la rivière Yazoo.
Bien sûr, on suppose que Yazoo, c'est un nom indien, hein, parce qu'ils ont souvent récupéré les noms. Mais en réalité, Yazoo Blues parle de la rivière Yazoo et aussi du delta.
La rivière Yazoo, c'est effectivement la limite est du delta.
Et le delta, c'est pas un vrai delta, vous savez, comme une sorte d'embouchure là, entre la mer et la rivière. Non, non, non.
D'ailleurs, le vrai delta, il existe. Hein. Le Mississippi a un delta côtier, comme oui, le Rhône, mais... comme le Nil, comme beaucoup de grands fleuves. Mais le delta, c'est autre chose.
Ils l'ont surnommé le delta parce que c'est une région qui est tellement plate qu'elle est sujette à des inondations conséquentes, au point que quand il y a ces inondations, on a l'impression que c'est un delta.
Et une autre analogie qui est à l'origine certainement de ce surnom, c'est l'extraordinaire fertilité de cette région, qui donc forme le sud-ouest de l'état du Mississippi, et qui est l'espace compris entre le Mississippi à l'ouest et la rivière Yazoo à l'est. C'est une sorte de région un peu ovale, et c'est considéré comme la plus sudiste de tout le sud, en bien et en mal. Donc c'est pas étonnant de savoir que c'est de là que viennent la plupart des plus grands chanteurs de blues de la première et de la seconde génération.
Oui, quand ils avaient à se plaindre, ben, ils utilisaient bien le blues. Hein.
Donc la rivière Yazoo, c'est un nom mythique. Et l'orchestre de Benny Moten, qui était alors très débutant, vous allez pouvoir entendre un certain nombre de choses qu'il démontre, en particulier le choix de la manière de s'exprimer, qui est un peu caricaturale, mais intéressante, avec un kazoo, avec un jazz aux flûtes, et même avec du banjo qui joue picking. Une sorte de caricature, là, c'est assez amusant.
Mais le banjo qui joue picking, ça peut être très très joli. Hein.
Banja, ça se fait peu. Il s'agit donc de l'orchestre de Benny Moten, qui s'est illustré plus tard à Kansas City avec éclat, et qui joue donc ce...
Yazoo Blues.
I'll pick it, Mr. Sam.
Quand on vous dit « Yeah man hein, », c'est simple, « Allez, vas-y papa !» Mais derrière ce nom de morceau, il se cache bien d'autres choses.
En réalité, c'était le nom d'une boîte de gangsters à Harlem, qui était spécialisé dans la vente d'alcool à l'époque de la Prohibition. Et puis après, c'est resté gangster, même si ce n'était pas Prohibition.
Et oui, c'est un speakeasy, finalement. Et puis alors, il a déménagé dans des quartiers plus sages et il a changé de vocation. Il est devenu la base de musiciens très connus, plutôt des pianistes, puisqu'on y trouve Donald Lambert, par exemple. Après quoi, il a été débaptisé. Mais le nom est resté. Et puis finalement, quand on dit à quelqu'un « Yéman », peut-être au départ, c'est une allusion à cet endroit. Allez savoir. De toute façon, Count Basie en a fait quelque chose de tout à fait délectable. Écoutez plutôt.
And what's now, Count? Well, we have a little something on the solid side called Yéman.
Fameux Delta. Au contraire, on va s'en approcher avec la Yazoo Delta Railroad.
Et oui, c'est la ligne de chemin de fer du Delta et de la Yazoo River réunies. Et son surnom, c'est
Yellow Dog.
Le chien jaune. Je suppose que la locomotive doit être peinte en jaune. Enfin, on peut tout imaginer. D'ailleurs, en Amérique, toute chose a un surnom. Vous avez remarqué ça?
Oui, oui. Hein, c'est d'ailleurs assez joyeux, finalement, parce qu'au lieu de garder des initiales, des machins comme ça, tout de suite, on donne des surnoms.
Par exemple, le Delta.
Voilà.
Et là, donc, c'est le chien jaune. Et le morceau qui vient s'appelle, naturellement,
Yellow Dog Blues.
Et ce Yellow Dog Blues, il raconte l'histoire d'une pauvre fille qui s'est fait larguer et qui s'imagine que son type va revenir si elle arrive à le joindre.
Pauvre innocente.
Eh oui. Et alors, elle déclenche une grande campagne d'information. Elle fait faire des enquêtes, elle envoie des télégrammes, enfin, je passe. Les paroles sont très prolixes là-dessus. Vous allez les entendre, d'ailleurs. Et puis, en fin de compte, elle espère toujours que le Yellow Dog lui ramènera son Jules. Et évidemment, ça n'arrivera jamais.
Ben oui, c'est peine perdue, là.
Alors, ça a donné lieu à un blues. Et nous allons confier ce blues à un orchestre qui va se produire au Rex à Saint-Flour le 28 février prochain. Donc, il faut quand même en parler.
Et qui s'appelle Blue Serenaders.
Et dont la chanteuse est Natasha Border. Alors, nous vous recommandons naturellement d'autant plus ce concert que nous serons nous-mêmes très concernés. Et au Rex, 20h30, le 28 février prochain, à Saint-Flour. N'oubliez pas, et voici un petit échantillon de ce que vous pourrez entendre. Voici Yellow Dog Blues.
Ever since my Susan Johnson, luckily, exciting, born to be, you can hear morning, my night and warm. I wonder where my easy rider's gone. Call Brams, come all sympathy. Telegrams go on. Johnson lest her luckily there's much big side and more.
Eh bien, nous ne vous souhaitons pas d'être dans l'état des gens dont on parle dans le morceau suivant.
Et oui, parce que le morceau suivant s'appelle « Yes, I'm in the barrel ».
Je suis dans le tonneau.
Alors on se dit « Il a trop bu » ou quoi ? Ah non, 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 c'est une expression qui veut dire qu'on est tellement fauché, on n'a tellement pas de quoi s'habiller, ben, qu'on va s'habiller avec ce qui vous reste, un tonneau.
Ça renvoie d'ailleurs à des images d'un film, je ne sais plus du tout lequel, où effectivement, on voyait le pauvre gars qui tenait un tonneau autour de lui, et on voyait les pieds nus dessous et les épaules dessus, qui tenaient comme il pouvait. Eh bien, c'est ça, être dans le tonneau. Et c'est un disque très intéressant parce que c'est une des phases du tout premier 78 tours des fameux Hot Five de Louis Armstrong, les premiers qui est publié sous son nom et qui sont une série fondamentale dans le jazz parce que c'est là que peu à peu est né le langage de cette musique.
Le morceau suivant, son titre, c'est un titre de livre. Imaginez-vous qu'il y a une brave dame, dans un style un peu facile, disons, mais qui avait du succès, qui a écrit un bouquin qui s'appelait donc « Young Man with a Horn ».
Le jeune homme à la trompette. Cette brave dame s'appelait Dorothy Baker et elle avait été fascinée par le destin cruel d'un trompettiste, par ailleurs naturellement excellent musicien, qui s'appelait Bix Beiderbecke.
Sa spécialité, c'était de très bien jouer, mais aussi de s'autodétruire.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
Qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts, il faisait tout ce qu'il fallait pour mourir jeune.
Il a parfaitement réussi dans son entreprise.
Et c'est vrai que le livre a eu beaucoup de succès parce que souvent les gens adorent ce genre de personnes qui s'autodétruisent, qui font tout ce qu'il ne faut pas faire. Au fond, les gens ont souvent une fascination pour ces personnes-là. Billie Holiday, donc Bix.
Charlie Parker. Ça fascine énormément de gens de l'intelligentsia, parce qu'en plus, ça a une sorte de filon poétique. Alors, le pauvre Bix, au départ un lycéen d'une famille blanche tout à fait honorablement connue de Chicago, d'ailleurs comme Mesereau, qui descendait d'une famille dont il disait qu'elle était propre comme un dimanche matin, tous ces gens-là se sont un peu envoyousés, je dirais, en allant faire du jazz et en allant se mettre à l'école des Noirs, ce qu'ils ont parfaitement réussi à faire d'ailleurs, mais laissés à eux-mêmes, leur destin a été dur, puisque Bix est mort à 28 ans quand même. Hein.
Oui.
Sans avoir pu faire tout ce qu'il avait à faire. Et il n'a pas fait son devoir de grand créateur, hein, en fait, jusqu'au bout.
Ah oui, mais c'était comme ça, il était comme ça.
Et alors, ce livre a suscité beaucoup de colère chez les musiciens qui connaissaient Bix, parce qu'il y a tout un romantisme échevelé qui n'existait pas, en fait. Et il est résulté un film de ce livre qui a le même titre, avec Kirk Douglas, si vous voyez ça. Ça a donné lieu à un morceau, naturellement, et la version la plus connue, c'est celle de Red Nicole, c'est de ses Five Pennies, mais c'est tellement sautillant et c'est tellement la démonstration que quand on ne se met pas à l'école des Noirs, on reprend du jazz pour en refaire de la polka, alors que les Noirs faisaient le contraire, que nous vous l'épargnerons et nous avons préféré une très jolie version du saxophoniste alto Willie Smith, grand musicien, méconnu. Là, ça se passe au Carnegie Hall, à un concert où Oscar Peterson tient le piano. Et donc, ça s'appelle Le jeune homme à la trompette.
Passons maintenant à zonki. Zonki, c'est une sorte d'onomatopée qui veut dire « je suis complètement zonki », c'est-à-dire « je suis complètement bourré ».
Oui, ça vient des comics, petit bout de bande dessinée américaine. Chez nous, on a Slurp,
Gosp,
etc. Et bien là-bas, ils ont zonk, et Fats Waller en a fait zonki. Et j'ai remarqué que quand Fats Waller s'empare d'un thème de ce genre-là, qu'il s'agisse d'être dans la fumette ou d'être dans la boisson, c'est souvent sur le mode mineur. Eh bien, Zonky, c'est un morceau en mineur.
C'était un morceau de Fats Waller, mais là, il est joué par les Mackinac Cotton Pickers.
Et vous verrez que ces braves gens ont l'ivresse extrêmement vigoureuse.
Thank you. time to start dancing donkey. Start cutting loose, get honky-tonky. It's a good excuse, let your feelings run wild. Shake feet plenty, don't be haughty. Work with double 20, that means 40. Make noise entry, act just like big child. Oh, got such, well, you know what I want to say. Hot much, that tempo sure is hot that way. I'll bet a dime against a donut. Other dance they may come and go, but when you learn donkey, you will want it to stay.
Maintenant, nous vous emmenons au bal des Zoulous.
Alors ça, c'est spécial. Il s'agit du carnaval et ça va prendre une ampleur extraordinaire dans le milieu des Noirs parce qu'on va élire le roi des Zoulous. Alors, il y a une espèce de connotation étonnante quand même avec la notion Zoulou, Afrique, etc. Hein. Et c'est un peu les racines africaines qu'on est en train de mettre un peu en avant, là.
Ah bah oui, là, on est dans le sud de la Louisiane, c'est aussi le pays du vaudou, hein. Il y a tout un tas de choses qui se télescopent.
Alors, c'est un roi, bien sûr, qui n'est pas élu de droit divin, mais qui est élu par un comité qui, chaque année, récompense, si on peut dire, une personnalité tout à fait marquante. Et ce roi des Zoulous, il va devoir se présenter, et se présenter ensuite déguisé avec une peau de panthère, un chapeau de roi des Zoulous. Et c'est une fiesta monstrueuse.
Oui, parce qu'en plus, il y a la reine des Zoulous, je te signale, il n'est pas tout seul.
Ah, c'est vrai, il y a sa femme.
Et le roi et la reine commencent leur journée à 9h du matin. Et ils se baladent dans la ville en cortège.
Vous imaginez la ville en folie.
Ah oui, ça c'est de la folie furieuse. Jusqu'à 5h de l'après-midi. À 5h de l'après-midi, je pense qu'ils ont dû souffler un petit peu. Puis les choses reprennent, car le soir, le point culminant de cette journée du Mardi Gras, c'est le bal des Zoulous. Alors, au départ, le bal des Zoulous se tenait au Japanese Tea Gardens, qui est du côté de la partie nord de Liberty Street. Et là, le roi et la reine et leur cortège défilaient lentement et faisaient le tour de la salle de bal.
En dansant naturellement, hein, et avec la musique, hein, je peux vous le dire.
Et puis tout le monde entrait pour faire la fête. Et là, on dansait et on buvait jusqu'aux petites heures du matin ou plus si affinité. Il en est résulté un morceau de musique qui s'appelle Zulu's Ball et qui était enregistré par le fameux orchestre de King Oliver en 1923, le Creole Jazz Band. Mais voilà, on connaît tous ces disques-là de cette série de 1923 par cœur, à l'endroit, à l'envers et dans les coins, sauf qu'il en manquait un qu'on n'avait jamais pu trouver. Et dans les années 60, on ne savait toujours pas à quoi ressemblait ce 78 tours où était gravé Zulu's Ball.
Et pourtant, tout le monde en parlait. Voilà.
On avait une trace dans les archives de la compagnie Jeannette, mais
voilà.
C'est tout.
Faut le trouver.
Et un beau jour, un exemplaire a été découvert avec lequel on a fait une sorte de repiquage. Le Zulu's Ball de King Oliver, vous ne l'entendrez pas tous les jours. Eh bien, le voici. Thank you. Eh bien, si vous pensiez qu'avec Zulu, on allait sortir de l'alphabet, eh bien, vous vous êtes trompé, parce qu'il y en a encore un pour conclure, et d'ailleurs pour finir vigoureusement, puisqu'il s'agit d'un morceau qui s'appelle Zumba, et que le Zumba, c'était...
Eh bien, c'était un médicament un peu comme le Viagra. Hein, vous voyez qu'on n'a rien inventé avec le Viagra. Qu'on utilisait dans les années 30. On ne vous garantit pas forcément le résultat. Hein.
Non, surtout que c'était une préparation artisanale, en fait.
Ça devait être explosif.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que Louis Bacon, le trompettiste Louis Bacon, qui à l'époque vivait en France et y entretenait un orchestre, pour détourner un petit peu l'attention du mot lui-même, a appelé ce disque « Prière à la déesse Zumba ». Je trouve ça assez bien trouvé.
Ou qu'il est malin.
Quoi qu'il en soit, voici Zumba et faites-en ce que vous voudrez.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.